Français, français.
Ladies and gentlemen,
c'est Jacques Chirac qui vous parle.
Je dis quand même, qu'est-ce qui vous tend la main là? Qu'est-ce qui vient là?
C'est Monsieur Sarkozy.
Bah Manu, tu descends.
La France n'est pas un pays réformable. C'est un peuple qui déteste cela.
Moi, président de la République.
Voilà donc, encore une fois, ensemble.
Bonjour à tous, nous voilà une nouvelle fois réunis. Je suis Quentin Warlop, je vous accompagne sur la route de l'élection présidentielle depuis maintenant près de 7 semaines et 7e numéro aujourd'hui de votre podcast Voix de France avec deux invités aujourd'hui. Alice Coffin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'autrice du génie lesbien, rédactrice de la préface Bienvenue au Wokistan chez Binge Audio et vous êtes aussi conseillère Europe et Écologie Les Verts à la mairie de Paris. Avec nous aussi Johanna Bouquet.
Salut Quentin.
Tu es journaliste pour Tarmac, tu suis la campagne pour les éditions digitales de la RTBF. Alors, ça se rapproche, on est à 19 jours maintenant du premier tour. La campagne patine un peu, on le dit depuis des semaines, crise en Ukraine, conséquences économiques obligent. Pourtant, on va évoquer un dossier qui devait se faire une place dans les débats de la présidentielle. Il devait, mais ce dossier passe un peu à la trappe, c'est le wokisme. Le wokisme qui était en train de s'inviter dans le débat public, on va en parler avec vous deux, comme la cause animale avait émergé en 2017, mais il faudra encore compter avec ce wokisme dans les prochains mois. Être wok, non, on ne va pas vous parler de cuisine, même si le terme est parfois mis à toutes les sauces. Alice Coffin, on va recontextualiser d'abord ce terme, le wokisme. Pour ceux qui nous écoutent, la base, le wokisme, c'est quoi?
C'est en tout cas dans le contexte français ou les contextes politiques, parce que c'est un peu le cas aussi aux États-Unis. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est ce que je qualifierais d'une instrumentalisation du débat public et politique pour disqualifier un ensemble de luttes qui sont notamment les luttes féministes et les luttes antiracistes. Et il y a ce terme qui est employé, en fait, au lieu de dire « bah non, je suis pas d'accord avec le fait que l'essor des mouvements féministes, l'essor des mouvements antiracistes qu'on a vu assez profondément, et en France notamment pendant ce quinquennat Macron, mais dans d'autres pays, que ce soit avec MeToo, avec Black Lives Matter, on a vu cet essor-là ». Et leur arrivée aussi, bien entendu, dans le champ politique. Et je pense que le fait de dire non au wokisme, c'est une manière de dire bah, restez dans la rue, restez là-bas, faites des manifs, mais ne vous piquez pas de venir vous installer dans le débat public et politique.
Être woke, Johanna, c'est être éveillé en anglais. C'est un terme qui vient des États-Unis.
Oui, exactement. En fait, bah, pour redéfinir très simplement qu'est-ce que c'est que le wokisme, qu'est-ce que c'est qu'être woke. En fait, être woke, ça veut simplement dire être éveillé face aux différentes inégalités, aux différentes injustices sociales, aux différentes discriminations. Donc, bah, cette première définition, on aurait tendance à se dire ça va, c'est plutôt positif et pourquoi pas. C'est un terme qui est venu des États-Unis. À la base, il était employé déjà dès le 19e siècle pour les luttes anti-esclavagistes. Martin Luther King aussi l'avait employé en 1965. Et il est venu sur le devant de la scène à la lumière des luttes Black Lives Matter après le décès de Michael Brown à Ferguson en 2014. Et depuis les États-Unis, il s'est internationalisé. Il est d'abord passé par le Québec et ensuite il est arrivé en France et partout en Europe à la lumière, effectivement, comme le disait Alice Coffin, des différentes luttes qu'on a pu voir tout au long de ce quinquennat. Et c'est vrai que, ben, en France, on a tendance à observer qu'il a électrisé une certaine partie du débat à différents moments de ce quinquennat.
Alice Coffin, pour les gens qui nous écoutent, qui ne savent pas vraiment encore ce qu'est le wokisme, c'est quoi? À l'échelle de la France, si on doit le résumé, c'est quoi? Ça ressemble au gauchisme?
Je pense que c'est davantage ce que sont visées ces certaines figures, certains mouvements. Alors, si vous prenez les États-Unis, par exemple, ça va être une personnalité politique comme Alexandria Ocasio-Cortez, et qui d'ailleurs a déclaré, enfin, qui est femme, féministe, latina, engagée sur un ensemble de mouvements sociaux et de luttes, et qui a d'ailleurs dit non mais maintenant le wokisme en fait est un terme employé par de vieux experts de Fox News pour disqualifier tout ce qui correspond à ces luttes-là. Et en France, on pourrait dire que les personnes qui vont se faire traiter de chef des wok, de maître des wok, il y a Rokhaya Diallo, moi j'en prends mon lot aussi. Donc c'est vraiment plus une incarnation, une manière de, encore une fois, de délégitimer certains mouvements et certaines personnalités qui correspondent pas dans l'absolu à grand chose, parce que en termes, c'est-à-dire que moi, je n'ai jamais entendu non plus Rokhaya dire je suis woke, on est woke. Donc c'est vraiment une imposition, une instrumentalisation de termes qui a été faite. Mais ce qui est intéressant pour moi, c'est la façon dont c'est manipulé dans le cadre de la campagne présidentielle notamment. Et vous l'avez rappelé en introduction, je pense que finalement le fait qu'il y ait une actualité autrement plus tragique qui ait pris le pas avec la guerre en Ukraine a fait que presque ça, c'était le journaliste Jean-Michel Apathy qui disait ça en disant finalement la guerre en Ukraine nous aura évité une campagne absolument désastreuse autour peut-être pas du wokisme, en tout cas de beaucoup de problématiques liées au racisme, liées au féminisme,
et ça en prend le droit le chemin.
En tout cas, le wokisme faisant exactement partie de ça. Pourquoi quand Anne Hidalgo commence sa candidature, Anne Hidalgo, candidate du Parti Socialiste, le premier terme, la première façon de se qualifier, elle dit « Je ne suis pas la candidate du wokisme ».
Jean-Michel Apathy, lui, se déclare woke, d'ailleurs.
C'est intéressant. Et que Anne Hidalgo sent le besoin, j'allais dire, on s'en doutait, en fait, c'était pas la peine de nous le dire aussi bien. Mais pourquoi est-ce qu'elle prend la peine, et c'est souvent plus en se disant « Je n'en suis pas ». Et je lutte contre le wokisme, comme l'a fait, vous l'avez rappelé, effectivement, le ministre Jean-Michel Blanquer ou d'autres. Il y a eu quand même un colloque spécialement à la Sorbonne qui a été organisé, où ont défilé justement certains politiques, pour dire non, halte au wokisme, donc, comme si c'était vraiment le dernier degré de danger que courait le pays.
Et on sait qu'Anne Hidalgo, ça a été une des premières à se déclarer candidate, donc Elle donne le ton
oui,
dès le départ.
Exactement, en employant ce mot-là et en disant « je ne suis pas là ». Moi, ça m'a énormément frappé qu'elle puisse dire ça, qu'elle n'était pas comme si c'était vraiment le plus urgent pour se qualifier. Mais c'est intéressant parce que ça veut dire que le wokisme, pour certains, marque une frontière, une ligne de démarcation entre « ils en sont, je n'en suis pas ».
Bon, ça c'était avant, évidemment, la guerre en Ukraine. On va y revenir sur ce qui se passe par rapport à la présidentielle. Johanna, on a dit, c'est un mouvement, ou en tout cas c'est un terme qui est utilisé au niveau international aux États-Unis, qui est arrivé en France. Quid de la Belgique ?
Eh ben, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que en France, par exemple, on peut voir que on ne compte plus les émissions de télé, les émissions de radio qui parlent du wokisme. On ne compte plus les livres sur les étals des librairies qui vont nous dire attention au wokisme, la France serait-elle contaminée, etc. Pourtant, en Belgique, les luttes qui pourraient être qualifiées de woke, celles qui ont égrené tout au long de ce quinquennat Macron, donc que ce soit les manifestations Black Lives Matter, que ce soit le hashtag MeToo en 2018, ou encore même les marches pour le climat, par exemple, qu'on a pu voir. Ben, la Belgique les a connus aussi, ces événements, finalement. Et c'est là où c'est intéressant. On n'a pas l'impression, quand on regarde en Belgique, que le terme woke est autant électrisé le débat.
Alors, vous parlez de plusieurs thématiques qui s'entremêlent. On a parlé du sexisme, on a parlé du climat notamment. C'est un terme qui est en partie devenu pour certains un terme fourre-tout, en tout cas pour ses détracteurs, un terme épouvantail. Je vous propose d'ailleurs d'écouter à ce sujet Clément Viktorovitch sur France Info.
On peut parfaitement discuter de la pertinence et de la légitimité de certaines actions utilisées par une partie des militantes et des militants, qu'il s'agisse d'appeler au boycott d'une œuvre ou à la mise au ban d'une personnalité. Mais les oratrices et les orateurs qui critiquent le prétendu wokisme ne vont presque jamais jusque-là. Ils se contentent bien souvent de jeter le mot au visage sans chercher même à le circonscrire. En rhétorique, cela porte un nom. C'est ce qu'on appelle la technique de l'épouvantail, qui consiste à englober ses adversaires derrière un terme repoussoir que l'on ne cherche même pas à définir.
Voilà pour Clément Viktorovitch. D'après un sondage IFOP à l'ISCOFIN, seuls 14% des personnes sondées avaient déjà entendu parler de la pensée woke. Alors on est en train d'en parler ici comme si tout le monde le connaissait ce terme, mais seuls 6% savent de quoi il s'agit.
Ben oui, c'est ça, il y a un décalage profond. Moi j'avais été invitée sur la matinale de France Inter à débattre face à Brice Couturier, qui a écrit un essayiste, bon, qui a écrit un ouvrage justement pour dénoncer les méfaits du wokisme, qui s'appelle, je crois, OK Boomers ou je sais pas quoi. Et justement, à la fin, Léa Salamé rappelle quand même, il n'y a que 14%. Moi j'ai fait, oui, mais en fait c'est vous qui vous organisez pourtant cette discussion publique-là autour de ce terme-là. Donc vous contribuez à l'installer aussi dans le débat public. Après, moi, je pense qu'il faut pas. Ils ont choisi ce terme-là. Ils ont choisi de mener ce combat-là. Ce qu'il faut, c'est rappeler en fait que derrière ça, ce qui pointe vraiment, et qu'ils ne peuvent pas dire aussi directement, c'est compliqué de dire je suis contre. Maintenant, c'est devenu compliqué de dire je suis contre le féminisme, je suis contre les luttes antiracistes. Mais en fait, c'est ce que ça veut dire. Hein. Quand ils disent je suis contre le wokisme, c'est exactement ce que ça veut dire.
Mais qui ils ?
Ça, c'est l'ensemble en fait d'un champ politique. Et ce qui est très intéressant, je trouve que c'est parce que c'est au niveau politique. Et c'est pour ça que c'est intéressant de l'examiner dans la campagne présidentielle et qui couvre une large gamme de partis, en fait, et y compris, je pense que c'est inter. Au parti. Je vous explique, par exemple, il y a eu un article du Canard Enchaîné qui s'appelait « Bienvenue au Wokistan », dont j'étais la protagoniste. Et en fait, qui expliquait, il disait « Bienvenue au Wokistan », il parlait de la phrase qui est exacte, que j'avais dit à Yannick Jadot, alors que c'était la primaire écologiste en France, donc qui opposait, moi je soutenais Sandrine Rousseau et qui opposait Yannick Jadot. Et c'est vrai que lors d'une conversation, je m'en cachais pas, je lui avais dit « Écoute, je trouve Yannick que tu devrais, puisque tu te prétends du féminisme, tu dis que tu soutiens les luttes féministes, à programme égal, vous soutenez le programme du Parti des Verts, etc. Tu devrais te désister au profit de Sandrine Rousseau si tu trouvais que le féminisme vraiment et que le sexisme était un problème gravissime dans le pays et qu'on a effectivement un problème très très grave dans ce pays dont participe l'absence totale dans la sphère politique et à la présidence de la République depuis toujours de femmes. Donc si tu es vraiment convaincu de ça, fais un geste. Et alors ça a été qualifié justement de summum du wokisme par le Canard Enchaîné, alors que c'était une discussion plutôt posée. On pouvait en parler, on peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord, mais je trouve que la question se pose. Et c'est pour ça que je dis que c'est un peu à travers les différents partis, c'est-à-dire que c'est une manière, et moi je peux le vivre aussi au sein d'Europe Écologie, et d'autres, je pense, peuvent le vivre au sein de leur propre parti, y compris à En Marche, ou y compris au Parti Socialiste. C'est plutôt le fait d'investir en politique des mouvements qui d'habitude sont cantonnés à la sphère activiste. Moi, ça m'a énormément marqué. Vous notiez que j'étais devenue conseillère de Paris il y a un an et demi. Les premières choses qu'on m'a dit, les premières choses que j'ai portées étaient des combats féministes, avec notamment un combat contre l'adjoint à la culture, Christophe Girard. Bon, je passe les détails, mais ce que je veux dire, c'est que c'était d'apporter les luttes féministes dans l'hémicycle.
Mais paradoxe.
Et on m'a dit, on m'a dit, votre place n'est pas ici. Vous êtes activiste, votre place est dans la rue et sur les réseaux sociaux. Donc ce qui pose problème, et c'est pour ça que je cite aussi Alexandria Ocasio-Cortez, mais on pourrait citer d'autres dans beaucoup de pays, et notamment en Amérique latine, où on a par exemple une arrivée massive dans les hémicycles politiques de personnalités issues des mouvements activistes. Et ça va continuer à se passer. Et je pense que le fait de qualifier de wokisme est une façon de préserver pour les politiques le territoire auquel ils étaient habitués et le personnel politique auquel ils étaient habitués. Et ils voient arriver d'autres personnes qu'ils qualifient de woke et qu'ils essayent de manière assez spontanée, de bouter hors de leur territoire.
Et toi, qu'est-ce que tu regardes ? T'as jamais vu une femme qui se bat ? Suis-moi dans la ville blafarde et je te montrerai comme je mords.
Mais paradoxalement, sur cette campagne, on n'a jamais vu autant de femmes candidates. Vous parliez de représentation, mais là, de tout parti confondu, on observe qu'on n'a jamais connu autant de femmes qui se présentent pour le poste suprême.
Ouais, tout à fait. Et je pense que c'est pour ça qu'il faut songer à des nouvelles qualifications en fait des luttes féministes en politique. En France, la parité maintenant, ça a plus de 20 ans. Ça a contribué effectivement, de manière extrêmement notable, à amplifier la présence des femmes dans les hémicycles politiques, sous la contrainte donc pour les partis politiques. Et je pense qu'une nouvelle étape doit être franchie, et qu'elle est loin de l'être, c'est la présence de féministes en politique. Ok, vous avez les femmes, mais alors est-ce que vous avez les féministes? Et là, je peux vous dire que c'est une autre paire de manches, et que la résistance, elle est totale à l'irruption des personnalités féministes dans la sphère politique.
Ah, il y en a un qui n'aime pas trop ce terme, c'est le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel...
Champion des anti-woke, Jean-Michel
Blanquer, qui a même créé un think tank pour lutter contre cette idéologie woke.
C'est dire.
Laboratoire de la République, qu'il considère comme une forme d'obscurantisme. C'était l'invité d'Europe 1 il y a quelques semaines. Je vous propose de l'écouter.
Alors, je ne voudrais pas en faire l'alpha et l'oméga des problèmes contemporains. C'est un sujet, il y en a bien d'autres, on l'a vu dans la première partie. Mais je pense que nos sociétés sont traversées par des forces de fragmentation, et la violence en est une, et certaines idéologies fragmentent les sociétés, singulièrement les sociétés occidentales, républicaines et démocratiques comme la nôtre. Et il faut savoir regarder ce qui vient saper la démocratie et saper la République. Le wokisme est clairement cela.
Le wokisme vient saper la démocratie, voilà les mots utilisés, on vient de l'entendre par Jean-Michel Blanquer. Alice Coffin, votre analyse, votre réaction?
Mais est-ce qu'on mesure bien, en fait, ces propos? Le wokisme vient saper la démocratie. Ça veut dire que, je reprécise encore une fois, donc les luttes féministes, les luttes antiracistes, les luttes sociales viennent saper la démocratie. C'est ça que ça veut dire? Et bien derrière, qu'est-ce qu'il faut lire? Les luttes féministes, les luttes antiracistes, les luttes sociales viennent saper l'omniprésence et la toute-puissance de certains dans les sphères de pouvoir et dans les sphères politiques, et qui se trouvent dérangés dans leur confort qui dure depuis des décennies, où ils sont dans une forme d'entre-soi, où c'est eux qui accèdent au poste de représentation, au poste politique. Et tout d'un coup, l'émergence un peu plus puissante que d'habitude, mais il y a encore du chemin de ces luttes-là, l'élection de certains représentants et représentantes de ces luttes-là dans les sphères politiques, pour eux, oui, c'est une menace, oui, c'est une menace, mais c'est pas du tout une menace pour la démocratie, c'est une menace pour le pouvoir qu'ils détiennent, eux, dans ces démocraties.
C'est le côté obscur de la force. C'est le côté obscur de la force.
Sombre monarque débarque et étale son pouvoir.
Moi, ce que j'ai l'impression quand j'entends ces discours-là, c'est pas forcément les luttes doivent être mises dehors. Je crois qu'il y a une crainte qui est très française finalement, et dont se saisit dans cette campagne, et dont s'est saisi pendant tout ce quinquennat, en tout cas les représentants de En Marche. C'est une crainte de mettre à mal cette espèce d'universalisme français, cette crainte que l'on risquerait de tuer la République une et indivisible. Et c'est d'ailleurs ce qu'on entend dans beaucoup de discours quand on entend parler dans les discours des représentants ministres ou secrétaires d'État de La République En Marche d'une certaine menace woke. Ils parlent pas nécessairement de devoir tuer des revendications dans l'œuf, ils ne parlent pas nécessairement de contraindre certaines luttes, ils parlent de mener ces luttes en commun et au nom d'un certain universalisme. Et je crois que c'est ça la crainte, en fait, qui peut se passer, en tout cas du côté de La République En Marche. C'est cette idée que le sacro-saint universalisme français risquerait d'être mis à mal.
C'est d'ailleurs ce que dénonce Sarah El Haïry, secrétaire d'État en charge de la jeunesse et de l'engagement. Elle dénonce régulièrement, dit-elle, cette menace wokiste, la cancel culture. Elle explique que le gouvernement veut lutter contre cela, lutter contre cette idéologie. Voilà les termes qu'elle utilise. Je vous propose de l'écouter.
Pour vous raconter un peu ma vie, j'ai travaillé et vécu assez longtemps outre-Atlantique, aux États-Unis, et là-bas, être woke, ça signifie être éveillé aux inégalités sociales, sexuelles, raciales, etc. Pour vous, c'est quoi la définition du wokisme?
C'est pas exactement celle-là, pour être totalement transparente. Être éveillé, c'est absolument essentiel. Être conscient, être un citoyen éclairé de la réalité de ce qui se passe dans notre pays. Oui, il y a des discriminations raciales, sexuelles, religieuses, antisémites. Bien sûr qu'elles sont, elles sont réelles, elles sont là. Et d'ailleurs, la lutte contre ces inégalités ne doit pas se faire par communauté d'orientation sexuelle, de spécificité religieuse ou ethnique, mais au contraire, ça doit être le combat de toute une nation.
Pourquoi le gouvernement n'est pas wokiste, Alice Coffin?
Mais je reprends ce que disait très justement Johanna Bouquet. Je pense que ça s'inscrit aussi dans une tradition, c'est-à-dire le mot wokisme, il vient remplacer aussi peut-être celui de communautarisme qu'on avait beaucoup en France avant, ou de séparatisme. Ça rime aussi à des termes comme islamo-gauchiste aussi, dont Jean-Michel Blanquer s'était fait beaucoup le héros de HUT, de la lutte aussi contre ça. Donc c'est un peu des mots fourre-tout, des mots chimères qui viennent dans une tradition aussi plus longue de politique qui viendrait désigner aussi l'ennemi de l'intérieur, qui viendrait désigner vraiment, quand on dit cette menace pour la démocratie, cette menace-là. Et réellement, je pense qu'ils sont bien à mal, après, de préciser davantage en quoi, en fait, ça serait menaçant précisément pour la démocratie, en quoi ces luttes seraient menaçantes. Alors, je suis d'accord avec ce que vous disiez, Johanna Bouquet, quand vous pointiez, non, mais c'est pas tant qu'ils sont en désaccord avec ces luttes. Je dis pas qu'ils sont en désaccord avec ces luttes aussi frontalement, je dis qu'ils sont en désaccord avec le fait qu'elles puissent venir s'installer très directement dans les sphères politiques et que des représentants et représentantes de ces luttes-là viennent à leur niveau, viennent dans leur place et là où ils sont. Et c'est ça qui leur fait aussi peur. Et ça, je pense qu'eux le vivent réellement comme une menace et ils sont réellement terrorisés.
Ce qu'il faut dire aussi, c'est que donc il a créé ce think tank pour lutter, dit-il, contre l'idéologie. Comment est-ce qu'il va faire ? C'est quoi ?
Mais je sais pas, c'est ça. Qu'est-ce qu'il va attraper comme concept ? Sur quoi vont porter ces journées d'études et de colloques de
ce qu'il a peur, Johanna, c'est que ça arrive en fait à l'université, le wokisme.
Pour lui, c'est déjà dans les universités. Pour lui, il dénonce le fait que les étudiants qui vont proposer des thèses, par exemple, aujourd'hui ne portent que sur des théories venues des États-Unis, les gender studies ou les théories antiraciales, etc. Et pour lui, ça, c'est une menace pour un manque de diversité, pour un manque de diversité des études et un manque d'objectivité. En tout cas, c'est ce qu'il dénonce. Mais je crois que vraiment, ce que dénoncent les détracteurs du wokisme, c'est le fameux « on peut plus rien dire ». Le fameux « aujourd'hui, si je lis un certain auteur, je serai taxé de X ou Y ». Il parle de « cancel culture » à propos de certains « woke », je mets des guillemets, ça se voit pas, on est en radio, mais je mets des guillemets, qui voudraient changer le titre de certaines œuvres, etc. Donc ça, c'est la première chose qu'ils craignent. Et à nouveau, je reviens à cette idée d'universalisme, en fait. Je crois